On avait un gros problème avec ce programme, ce FSP Mère Enfant. Le sujet Mère Enfant est évidemment stratégique en Afrique, au sens où la mortalité infantile et maternelle est considérable. Et donc le ministère des Affaires étrangères souhaitait une implication forte des facultés de médecine française pour essayer d'éradiquer, ou du moins d'éradiquer, de diminuer le taux de mortalité et de morbidité. Il y avait au moins 17 pays d'Afrique, 2-3 pays d'Asie, ce qui correspondait à la zone prioritaire pour le ministère. On s'est posé tout de suite la première question qui est quelle stratégie pédagogique utiliser, sachant que, bien entendu, il n'était pas question d'envoyer des professeurs tout azimuts à droite à gauche. Alors ça, on sait le faire, hein. Ça fait des années que ça se fait. Alors il y a des gens qui s'épuisent à faire des cours, et puis quand ils sont bien fatigués, ils arrêtent et ça tombe à l'eau. C'est pas ça qu'on voulait faire. On voulait faire quelque chose qui puisse durer de manière permanente. Qu'après notre départ, les pays soient autonomes. Donc, ce qu'on visait, c'est un transfert de compétences qui rende les pays et nos collègues complètement autonomes, ce qui n'empêcherait pas une collaboration par ailleurs, mais qui fait que le programme aurait un sens au bout des 4 ans où il a été réalisé. Alors, cette permanence, comment l'acquérir? Comment la transférer? Et comment déjà transférer les connaissances? Alors, nous avions une expérience qui avait fonctionné à Grenoble, qui nous avait paru intéressante, qui était la suivante. Les enseignants n'avaient plus d'amphi. On distribuait sous forme numérique les connaissances, les cours, sous forme de DVD ou de site, et les enseignants étaient relayés par des tuteurs à partir de ces outils, de cette banque de données de connaissances, cette banque de données multimédia où étaient les cours. Et on s'est dit que pour l'Afrique, ça serait une bonne stratégie pédagogique. Il y a très peu de personnel enseignant par rapport aux besoins. Il y a des gens très compétents mais très peu nombreux. Et on s'est dit que le relais et le croisement entre le numérique, banque de données numérique d'enseignement, et des tuteurs pouvait effectivement être un multiplicateur considérable de la compétence et du transfert de compétences. Donc pour la permanence, on s'est appuyé, grâce à Jean-Paul Franck, qui était représentant de la CIDMEF, président de la CIDMEF, c'est-à-dire de la conférence des doyens francophones, sur l'ensemble de l'institution. C'est-à-dire que c'est les facultés qui sont nos correspondants. Nos diplômes en général des DU, qui concernent la mère et l'enfant, sont implantés dans les facultés. Nous ne diplômons pas à distance. C'est les facultés africaines qui diplôment, ne serait-ce que pour ne pas faire de brain drain. Deuxième point, comment nous transférons les connaissances? Nous avons des points d'appui, nos collègues à Dakar, à Abidjan ou ailleurs, qui disent, avec leurs doyens, ces DU nous intéressent. Dans la liste des DU que vous avez prévues, ces DU nous intéressent. On souhaite que vous les implantiez dans nos facultés. Et on fait comme ça des diplômes interuniversitaires, internationaux. Du point de vue pratique, nous faisons la numérisation en France de l'ensemble des cours du DU sous forme de diapo audio. Ça marche très bien, c'est souple, c'est léger, ça se fait facilement. N'importe qui peut dicter sur ces diapos. Deuxième point, c'est un domaine où nos collègues africains peuvent facilement refaire des cours et enrichir de telle manière que la base de données soit francophone et non plus française. Et troisième point, et c'est encore plus important, nous formons les tuteurs, c'est-à-dire nous faisons venir en France des tuteurs des différents pays qui vont être chargés d'expliciter ces cours face aux étudiants africains. Ce sont donc nos jeunes collègues africains qui viennent, que nous formons, qui suivent nos DU, qui sont validés et qui ensuite, disposant du matériel multimédia, font les cours. On s'est rendu compte qu'il est infiniment plus facile de reprendre un cours déjà fait et de l'expliquer que de le créer tout seul. Et ça permet bien sûr à des gens de compétences, disons, moyennes ou même bonnes, mais pas forcément très spécialisés dans un sujet, de devenir très bons très vite. C'est-à-dire, au plan pédagogique, il y a un transfert réel, fort, vers les tuteurs, et puis ensuite vers les étudiants africains. Les examens sont contrôlés ensemble, c'est-à-dire qu'il y a co-examination entre les gens du Nord et du Sud, pour être sûr que le niveau soit exactement le même au Nord et au Sud. Mais le diplôme est bien sûr délivré par les facultés du Sud. Bon, voilà, ça c'est le concept pédagogique. Alors, ce concept pédagogique a donné naissance à des outils de suivi. En gros, deux outils de suivi. Un outil de suivi sur le terrain dont vous parlez, Grenoble, qui est responsable de toute la zone suivi de terrain et, disons, suivi des étudiants, qui est un énorme travail que Grenoble fait bien, à mon avis. Et deuxième point, un outil central qui est au niveau des trois coordinateurs, c'est-à-dire Albert Claude, Jean-Paul et moi-même, et qui est chargé de suivre et de piloter le projet. Quand on a un projet sur 17 pays, l'aspect pilotage, l'aspect logistique est absolument déterminant. Si la logistique est défaillante, votre projet, il est mort. Et dites-vous bien que la logistique est beaucoup plus lourde que ce qu'on a toujours prévu. Vous pouvez la prévoir aussi grosse que vous voulez, vous êtes sûr d'avoir tort, ce sera toujours plus gros. Il y aura toujours plus de pépins, il y aura toujours un avion qui n'arrivera pas, il y aura toujours du matériel qui manquera, enfin bon, j'évite les détails. Alors, en deux mots, je vous présente rapidement l'outil de suivi. Bon, on a un portail de suivi qui est à un niveau, et puis ensuite le portail de terrain que Grenoble gère. Alors, vous avez les programmes détaillés, vous avez les newsletters, les bases de référence des DU. Qu'est-ce qu'on fait comme DU? Toutes les missions. Enfin, c'est un outil aussi qui permet au ministère des Affaires étrangères de suivre notre boulot, hein, c'est clair. Nos agendas et les indicateurs. Bon, voilà un exemple. Vous avez une base de référence qui vous donne le programme détaillé. Vous avez les newsletters, c'est-à-dire ce qu'on fait de temps en temps. On fait une lettre expliquant, voilà, ben voilà, une newsletter. Voilà ce qu'on a fait d'important ces 3 ou 4 derniers mois. Hein, vous voyez, vous devriez voir une photo d'Albert Claude. Ah ben oui, elle est là. Généralement, il adore ça. Bon, ensuite, vous avez une base de référence des DU. Ça, c'est important. Vous avez là tous les DU disponibles pour le moment. Vous hein, voyez, les C2I, il y a un prérequis, il faut commettre un minimum d'informatique. Vous avez la chir gynéco, la chir laparo, la pelvienne et périnéale, la cancéro, l'éco-obstétricale qui est partie en tête et qui marche très bien, l'infection materno-fétale, les mécaniques et techniques obstétricales, la périnate, les sages-femmes qui vont partir, le SONU que va faire notre ami Henri-Jean-Philippe et les urgences pédiatriques, vaccinaux enfin. Donc, vous voyez que c'est quand même un assez lourd programme. Et, bien entendu, on ne pourra pas l'implanter tout dans toutes les facs africaines. Il y aura des pôles, hein, à Dakar, à Abidjan, au Gabon, etc. Et, grosso modo, il y a eu 3 phases. La première phase, on a fait le test sur l'écho. La deuxième phase, qui est la phase actuelle, on multiplie les DU. Et la troisième phase, ça sera l'extension des DU dans les 17 pays. Vous voyez, c'est programme NASA. Hein. Alors ensuite, vous avez par exemple toutes les missions pour un DU. Alors, ça a l'air de rien, mais il y a des missions, c'est des missions en cascade. Hein. Je vous montre tout ça pour vous montrer que, ce que ça veut dire de faire un programme de ce type-là. Vous avez pour un DU donné les différents chapitres, bien sûr. Vous avez les agendas par pays. Vous avez le récapitulatif de tout ce qu'on a fait sur un pays, sur tous les DU. Les missions par rubrique, je vous évite le détail. Et vous avez un certain nombre d'indicateurs sur ce qu'on veut faire. Et le futur. L'avenir, c'est qu'on a une grosse demande en Afrique de transformer nos DU en master. Parce que le master a une valeur internationale que le DU n'a pas. Et c'est notre ami Jean-Paul Franck qui va être chargé de masteriser un peu nos DU, de les regrouper en master. Donc, les différentes étapes, je viens de les donner. Je vous remercie.
Je vais vous parler un petit peu du projet. Il y aura peut-être quelques redites, mais par rapport à ce qu'a dit Marcel. Mais voilà, on va essayer d'avancer et puis de revenir sur les points importants, les objectifs un petit peu de ce projet. Donc c'est un projet donc qui est d'une durée de 4 ans, mais qui en est en réalité au début de la deuxième année seulement. Donc on va voir un petit peu déjà où on en est par rapport à ce projet. Donc ce qui est très important, c'est que c'est vraiment un projet nord-sud avec un partage de la création des cours et de l'enregistrement des cours entre donc les enseignants français et les enseignants des différents pays. Et là donc on voit Jean-François Meillet donc de Libreville au Gabon et puis Michel Collet, et c'était la première diplomation qui a eu lieu en début d'année donc à Libreville. Donc on a sur les cours donc qui sont mis en ligne sur le je prends cet exemple là puisque c'est le premier DU qui a été réalisé, qui représente une centaine d'heures de cours d'enregistrement. 50% des cours enregistrés l'ont été par les pays du Sud, donc de Libreville, Dakar, le Maroc, la Tunisie, enfin une bonne partie des pays francophones qui participent au projet. Donc c'est très important, et on essaie donc à chaque fois sur à peu près les 10 DU qui vont être mis en place sur ces 4 années, que vraiment il y a un véritable partage et que les contenus soient créés par le Nord et par le Sud. La première mise en œuvre était un petit peu un calage pour nous la première année. C'était à la fois aussi réaliser des formations informatiques et pédagogiques aux enseignants des pays donc du Sud. C'est-à-dire qu'on a commencé par apprendre et à former les enseignants à utiliser ces nouvelles pédagogies numériques. Donc on a formé actuellement plus de 300 enseignants à utiliser les nouvelles technologies, et donc la sonorisation des cours PowerPoint, la mise en ligne sur le serveur. Donc on a aidé les enseignants à utiliser ces pédagogies numériques. On a modélisé aussi, puisqu'il y a tout un ensemble de cours qui ont été faits, donc ces formations, et le premier DU de Michel Collet a servi donc à modéliser. Et puis on a aussi développé des plateformes de suivi, puisqu'il y a actuellement plus de 600 personnes qui participent à ce projet. Donc ça demande à la fois une plateforme d'ingénierie pédagogique et puis surtout une plateforme de suivi en ligne de tous les intervenants, toutes les structures et tous les événements qui font partie du projet. Donc l'idée au bout de 4 ans, c'était au minimum d'avoir 9 formations diplômantes en ligne, 2500 heures de formation disponibles, et puis avoir formé au moins 150 formateurs et 2000 étudiants sur l'ensemble de ces années. Donc si on regarde, puisqu'actuellement on est à peine à mi-parcours de l'année 2, il y a un site qui s'appelle mer-enfant.org, donc qui contient toutes les informations donc sur le projet et qui recense tous les événements qui sont réalisés tout au long de l'année, les formations, les participants. Donc il y a un site vivant qui est là pour l'ensemble des partenaires et qui permet à tout le monde de suivre tout ce qui se passe sur le projet. Si on regarde où on en est actuellement, on a avancé, je dirais, plus vite qu'on l'imaginait, puisqu'on est déjà au niveau de la deuxième année. On a déjà 8 formations totalement modélisées, qui donc sont toute la partie informatique et pédagogie, mais surtout l'échographie obstétricale, la chirurgie gynécologique niveau 1, niveau 2, l'infection materno-fœtale, la chirurgie laparoscopique et les techniques obstétricales. Donc tous les contenus sont faits. Après, on n'en est pas tout à fait au même niveau de diffusion et d'appropriation par les pays du Sud de tout ça, mais on a déjà bien avancé. Donc les ressources, elles sont disponibles sous plein de formats différents, puisqu'il faut s'adapter à chaque pays. Il y a quand même localement, puisque là on est sur des publics dans les facultés, on n'a pas de problème d'accès, je dirais, au contenu. L'accès au réseau internet est parfois un peu plus complexe, c'est pour ça qu'on les diffuse à la fois soit sous forme de DVD, soit sous forme d'un serveur local, soit d'une clé USB. Enfin, il y a tout plein de moyens de diffuser les ressources, même si certains pays arrivent à se connecter sur nos sites en ligne. Si on regarde un petit peu évaluer un petit peu où on en est, on a déjà donc actuellement formé 600 personnes et certifié ou validé plus de 50%. On a à peu près 30 sessions de formation qui ont déjà démarré cette année. Ça c'est pour les sessions qui sont terminées. Donc on voit qu'on progresse donc depuis le démarrage. On va cette année avoir à peu près fait 45 sessions de formation sur l'ensemble à peu près des 17 pays concernés par le projet. Et puis surtout ce qui nous intéresse, c'est de rendre, je dirais, autonomes au bout des 4 ans les pays concernés par le projet. Actuellement, on peut dire qu'on a à peu près 4 pays qui sont déjà autonomes sur au moins 2 diplômes interuniversitaires. Pour nous autonomes, c'est-à-dire que on en est déjà à la 2e ou à la 3e session de formation et que le jury local est déjà réalisé sur place. Et donc, sur place, c'est quelque chose qui perdure, qui est en place et qui continue. Donc, en gros, actuellement, on a le Maroc, la Tunisie, le Sénégal et le Gabon, qui sont complètement autonomes sur certaines parties. Certains sont très impliqués, et là, bon, on a même avancé un petit peu, je dirais, qu'actuellement, que ce soit le Mali est déjà pratiquement autonome, va bientôt l'être. Donc on voit que on a encore 3 ans devant nous, donc pour lancer cette diffusion, mais que l'espoir de rendre autonomes les pays sur au moins une dizaine, et on ira bien plus loin, puisque actuellement on a des avancées qui n'étaient pas tout à fait aussi formalisées au départ, qui sont vers les sages-femmes, vers les infirmières, c'est-à-dire qu'on va un petit peu vers des publics paramédicaux qui n'étaient pas au départ tout à fait aussi avancés. Donc on ira, je pense, bien au-delà de ce qui a été prévu. Et c'est vrai qu'au bout d'un an et demi, on est capable un petit peu maintenant d'avoir une vision très précise de l'avancée des choses. Et le projet permettra de rendre la plupart des pays. C'est vrai que je dirais la difficulté maintenant qui se fait jour, c'est plus maintenant dans l'animation locale. Et c'est vrai qu'on cherche des relais dans les différents pays. C'est vraiment l'animation locale maintenant pour que tout ça prenne bien son essor. Voilà. Merci.
Donc je voudrais vous reparler du projet Haïti, son projet auquel interviennent l'UMVF, l'UNF3S, la Conférence des doyens des facultés de médecine de France, et également donc il y aura donc également donc la CINMEF en liaison avec l'agence universitaire de la francophonie. Alors, ce diapositive, ce n'est pas pour vous montrer où se situe Haïti réellement, mais il y aura également donc des liaisons avec notamment le Canada, hein, puisque c'est très proche, avec également l'université donc anti-Guyane. Donc, ce projet, je vous l'ai dit, donc réunit ces différentes composantes, et également donc la mission donc interministérielle pour la reconstruction de Haïti qui a été mise en place à la suite du tremblement de terre du 12 janvier. Donc c'est le plan d'enseignement numérique présentiel à distance en faveur de la formation médicale et en santé, puisqu'il y aura également la formation des infirmières, des sages-femmes, et également, donc il y a une faculté de pharmacie, également donc à Haïti. Donc la suite de ces... C'était à la suite de plusieurs réunions pour la refondation plutôt universitaire de Haïti, parce que tout est difficile à Haïti depuis longtemps, les universités, l'environnement, je dirais même l'organisation gouvernementale, d'autant plus qu'il y a des élections donc très prochaines, le 28 donc, novembre. Alors il y a eu plusieurs réunions à la suite de ce tremblement de terre. Dès le 26 février, donc une réunion à Saint-Domingue avec la conférence des présidents d'université de la région Antilles, en liaison avec la UF, une réunion au ministère d'enseignement supérieur donc à Paris au mois de mars, avec toutes les composantes. En avril-juin, réunion du comité d'action franco-haïtien, des assises de la UF donc à Montréal au mois de mai, et également une réunion donc à Port-au-Prince au mois de juillet, où les 4 facultés de médecine ont décidé de mettre en place une coordination et une conférence des doyens donc de Haïti. Donc en ce qui concerne le numérique, il y a 2 projets, l'un qui concerne uniquement le médical et qui nous a été confié, donc en liaison avec la conférence des doyens français et la CINMEF, ce qui a été confié à l'UNF3S, et le projet PENDA qui concerne l'ensemble des autres universités, le reste de l'université, avec des, au point de vue financement, projet PENDA, donc qui c'est 1,5 million d'euros sur 2 ans, et notre projet, donc c'est 1 million d'euros en 2 phases, donc une première phase, on le verra, de 500 000 euros. Donc je vous répète qu'il y a 4 facultés de médecine. 4 facultés de médecine, il y a l'université, la faculté de médecine, l'université d'État de Haïti, qui ne marchait pas depuis un an, qui était en grève depuis un an au moment du tremblement de terre, donc qui est reparti, mais il termine donc seulement l'année 2008-2009, puisqu'ils ont donc perdu une année. Donc un déficit de gouvernance, donc il y aura également d'autres projets pour la gouvernance des universités et la gouvernance des facultés de médecine. Il y a un projet qui doit se mettre en place entre le Canada, la CINMEF et donc également l'UCL, donc de Bruxelles, et en liaison avec la UF, des appels d'offres. Il faut régulièrement consulter les appels d'offres, parce que maintenant les appels d'offres de la UF sont plus nécessairement diffusé. Donc là, je vois Didier Wallo, que je pensais, qui est là. Donc, sont diffusés. Les appels d'offres seront surtout régionaux. Et Didier nous en parlera tout à l'heure, je l'espère. Donc, les destructions sont importantes. Et il faut savoir que le corps enseignant, la plupart, je l'ai déjà dit, donc il n'y a pas d'enseignants, un corps d'enseignants titulaires dans le domaine médical, mais c'est essentiellement des enseignants contractuels qui font des cours et qui vont dans chacune des facultés de médecine, parce que les cours sont pas très payés d'une part, ils sont obligés de travailler en dehors, et donc ça ajoute, bien sûr, ça multiplie un peu, le peu fait un petit quelque chose, mais c'est pas très important. Et le réseau donc Internet, donc Didier pourra nous en parler tout à l'heure, il connaît beaucoup mieux que moi, donc peut-être cela, je risquerais de faire des bêtises. Donc en ce qui concerne la faculté de médecine de l'université d'État de Haïti, c'est la seule qui soit publique. Donc elle a été détruite en grande partie. Et donc vous voyez donc ce qu'il en reste. Je sais pas si j'ai la flèche. Oui, donc là, il reste des bâtiments. Il restait des. Et en plus, donc il y avait là notamment les sites de laboratoire. Et tout a été pillé. Le peu qui restait a été donc totalement pillé. À droite, ce sont les salles de cours actuelles. Donc, où tant bien que mal, ils ont réussi donc à remettre en place 2 salles. Et il y a 2 autres salles qui vont servir momentanément. Et en ce qui concerne l'administration, il y a la doyenne, un vice-doyen et 3 personnes administratives. Donc, il y a un projet qui est un projet mené donc notamment par Humanitera, donc et avec Marseille et donc et différents donc intervenants qui vont. Leur projet, c'est de remettre en place avec des containers une faculté de médecine et de pharmacie, puisqu'il y a une faculté de pharmacie qui, elle, pour l'instant, n'a pas été détruite, mais qui donc participera à ce projet. Mais il reste donc actuellement à collecter les fonds pour la faculté de médecine, alors que l'école d'infirmières, qui malheureusement a été totalement détruit. Je vous ai dit 90 morts, 4 enseignants, donc il n'en reste plus rien. Et c'est la première qui va être construite, c'est l'École nationale d'infirmières de Port-au-Prince. Ce sont des containers, donc qui sont. Et avec un hall central, mais un seul étage au départ, un rez-de-chaussée, mais il devrait y avoir. Donc ça va être complété par un autre étage et il y aura également donc l'école de sages-femmes et un espace où on espère mettre en place le principal centre d'enseignement qui sera commun à la faculté de médecine d'une part et commun donc à l'hôpital universitaire de Haïti qui est là également donc qui est en difficulté. Et il y a eu un projet qui a été signé en septembre entre Hillary Clinton, Bernard Kouchner et le Premier ministre de Haïti. Donc il y a les USA et la France donc mettent à disposition donc 50 millions de dollars et donc l'État haïtien 3 millions de dollars. Mais forcément, donc ça va pas être prêt tout de suite hein, puisque le projet, je crois que c'est 2014 qui devrait être terminé. Donc les infrastructures qu'on va mettre en place vont essentiellement donc un site principal, un site hospitalier universitaire de l'hôpital universitaire donc de Haïti, et qui sera en liaison directe avec la faculté de médecine de l'université d'État de Haïti. Et peut-être donc on va essayer de mettre ça en place au niveau donc de l'école d'infirmières, au premier étage de l'école d'infirmières. Et peut-être momentanément donc une première salle dans ce qui reste de la faculté de médecine de Haïti, mais ça risque d'être concomitant et de faire double emploi. Ensuite, il y a la faculté de médecine de l'université Notre-Dame de Haïti, qui elle n'a pas été touchée, qui travaille notamment avec la faculté de médecine d'Amiens et en liaison avec un hôpital universitaire qui est au nord, l'hôpital Justinien à Cap Haïtien. Et là, donc, il y aura un projet commun, puisque Cap Haïtien reçoit des internes, la dernière année, la septième année, des internes, notamment de cette faculté de médecine Notre-Dame. On mettra un site à la faculté de médecine de Notre-Dame, mais ils ont des liaisons également fortes avec les États-Unis. Et là, on va s'appuyer les uns les autres, puisqu'ils ont un projet pour mettre en place un site de visioconférence. On ne va pas le doubler, bien sûr, on va les laisser faire plutôt, et on essaiera d'utiliser donc leur projet. Autre faculté de médecine, c'est celle de l'université de Quisqueya, qui a été également donc grandement donc détruite, qui a déjà des infrastructures et des visioconférences. Mais enfin, j'ai eu l'occasion de voir la façon dont ça se passait. Et là, il y aura également un point numérique à mettre en place et conforter cette visioconférence. Enfin, la faculté de médecine Lumière, elle est totalement détruite. C'est un tas de décombres. Et on nous a montré simplement ce tas de décombres où il y a eu 27 morts et un enseignant. Donc, actuellement, il fonctionne dans un collège, mais on n'a pas réussi à le voir parce que il était fermé et dans un quartier au sud de la place principale, le Champ de Mars, où là, donc, il y a 30 000 personnes qui sont sous détente. Donc, il y aura un point universitaire principal à proximité de l'hôpital, un point et de la faculté de médecine de l'UEH, ce premier point que l'on espère mettre en place, et des points, donc, la faculté de médecine dans les autres facultés de médecine, avec des développements différents. Je vous fais grâce du détail de ces infrastructures. Alors, bien sûr, on va s'appuyer sur l'expérience de l'AUF, hein, le représentant, donc là, étant le principal acteur, Didier Wallot, qui nous fait le plaisir d'être là donc ce matin. Puisque bien sûr, en ce qui concerne à la fois le réseau, on ne peut pas se servir de satellite, puisque d'une part ça coûte très cher, et d'autre part, compte tenu des problèmes atmosphériques et des ouragans et autres, je crois que le satellite donc ne peut être utilisé. Donc on va s'appuyer bien sûr sur leur expérience, à la fois pour les matériels, pour les réseaux, et pour la mise en œuvre, puisque là, on risque d'avoir des difficultés. Et les premières propositions qu'on avait eues de connexion Internet étant donc prohibitives, et l'AUF a réussi en raison de son implantation importante. Il y a également un campus numérique qui existe déjà, donc qu'on a eu la chance de visiter, mais les opérateurs, il y a un autre nouvel opérateur qui pourra être utilisé. Donc en ce qui concerne le FASA, je vous l'ai dit, il y a 600 000 euros, mais en fait 100 000 euros concernent la valorisation des formateurs qui iront à Haïti ou qui donc se prendront en charge les étudiants en France, les formateurs en France, les recettes, donc 500 000 euros du MAE. On vient d'avoir, donc cet argent devrait nous arriver dans quelques jours. Il fallait faire vite puisqu'il y a un remaniement ministériel et ça risquait de disparaître. Les dépenses, donc formation de formateurs à Haïti, valorisation des enseignants, puisqu'il y aura des missions sur Haïti. Il y aura à la fois des enseignements en distance par visioconférence, mais également donc des enseignements sur place en présentiel enrichi. Bien sûr, l'adaptation, nous mettrons à disposition les documents qui existent au niveau de nos différents portails, les équipements numériques, donc 150 000 euros, les ressources humaines, puisqu'il faudra bien sûr recruter sur place. À la fois, ce n'est pas le plus important, et ce ne sera pas le volet financier le plus important, la plus importante, quelqu'un qui va coordonner sur place, mais surtout des techniciens, au moins pendant les deux premières années. Et l'évaluation du ministère, donc 14 000 euros. Donc les outils qui vont être utilisés, c'est bien sûr l'utilisation au portail web, la bibliothèque numérique, présentiel enrichi, visioconférence. Il n'est pas question de faire d'un véritable e-learning compte tenu des ressources humaines que cela nécessiterait. Donc le portail, on va mettre à disposition surtout des diaporamas sonorisés, les canalus, donc les ressources, et tout ça va également donc être mis en œuvre pour la formation médicale continue. Il y a une organisation des médecins haïtiens qui est très active, mais surtout donc qui se fait en anglais, les visioconférences actuellement. Donc je vais m'arrêter là. Donc peut-être développerons-nous, comme dans le Mère Enfant, des questions en ligne. Et d'autre part, donc c'est pas seulement l'UMVF, mais il y aura également les pharmaciens qui, non pas le sport, mais les pharmaciens, puisqu'il y a une faculté de pharmacie qui est en liaison avec la faculté de médecine de Caen. Je vous remercie.